Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
Dans notre marche vers l'unité avec le Christ, au numéro 821, il était question de la formation œcuménique des fidèles et spécialement des prêtres. Est-ce que tu peux redire ce que veut dire le mot œcuménisme ?
Donc le mot œcuménisme a deux significations possibles. Il y a le nom de toujours, le nom ancien qui a permis de parler de concile œcuménique, où certains comme Jean le Jeûneur, ce patriarche de Constantinople, qui s'est appelé tout à coup le patriarche œcuménique, vous vous souvenez, hein, c'est au 6e siècle. Et le pape Saint Grégoire le Grand lui a répondu, mais dis-moi, tu pourrais attendre un concile pour te déclarer comme ça patriarche œcuménique, tu te déclares tout seul œcuménique, moi je suis le serviteur des serviteurs. Magnifique réponse du pape Grégoire. Toujours est-il que œcuménique était pris dans le sens de qui concerne tous les chrétiens, de la vie habitée, là où l'évangile avait atteint donc les limites du monde. Et oikia, qui forme le mot œcuménisme, veut dire habiter, oikeo, habiter. Donc l'oikouméné, c'est sous-entendu la terre habitée, la terre, l'univers d'ici-bas connu, où l'écriture a pu être, dans le fond, promulguée comme étant la révélation. C'est ça l'idée par derrière. Et un concile œcuménique, c'est l'assemblée des évêques qui ont la responsabilité de ces terres évangélisées. Et on essaie de les rassembler de tous les horizons. Et c'est ça qui fait qu'un concile n'est pas seulement un synode local d'une assemblée d'évêques tout à fait légitime ou de conciles locaux particuliers, mais universel. C'est dans le fond un mot qui est presque synonyme du mot universel. Alors, ça c'est l'œcuménisme en acte qui a toujours existé, c'est-à-dire faire l'assemblée générale des chrétiens, mais il existe un autre sens qui est plus récent, qui date donc de ce renouveau chez nos frères protestants, quand ils ont voulu organiser la mission d'une manière qui puisse ne pas être toujours en lutte, en opposition, en situation donc de zèle conflictuelle entre les différentes branches du protestantisme. Et qui se sont dit, dans le fond, il faut qu'on fasse un mouvement non plus centrifuge, où on s'éloigne de plus en plus de nos racines, mais centripète, de revenir à notre origine. Et ils auraient pu prendre le mot catholique à ce moment-là, parce que dans le fond, c'est ce que nous vivons dans l'Église catholique. Mais comme le mot catholique était déjà très utilisé par une grande partie des chrétiens, ils ont utilisé le mot quasi synonyme de œcuménique. Mais à ce moment-là, ça n'a plus la signification première des conciles œcuméniques, ça a la signification d'une recherche de l'unité en puissance, c'est-à-dire qui n'est pas encore en acte. Tous ces groupes protestants ne formaient pas une seule église, mais formaient des rencontres où ils se rassemblaient dans la différence, presque dans la diversité, j'oserais dire, puisqu'ils étaient tellement différents au point de s'être parfois disputés violemment entre les différents groupes que nous évoquions dans une autre émission, entre les réformés, les luthériens, les anglicans, les mennonites, les baptistes, et puis les groupes d'églises libres, les groupes assemblées de Dieu, pentecôtistes, etc. Parfois, ils s'étaient littéralement excommuniés. Donc il y a eu un très bel effort tout au début du XXe siècle d'un espèce de retour à l'unité. Hein, et ce retour a été tout à fait heureux puisque il a débouché sur la création du Conseil œcuménique des Églises. Et c'est ça qui a permis donc ce mouvement œcuménique en puissance. C'est-à-dire on n'est pas encore dans l'unité, on est seulement en puissance d'unité, mais on se rassemble déjà pour essayer de tendre vers l'unité. Donc on distingue bien l'œcuménisme en acte, c'est celui des 21 conciles œcuméniques catholiques de toujours, depuis Saint-Pierre, depuis la première assemblée à Jérusalem jusqu'à Vatican II, ça c'est l'œcuménisme en acte. Et puis vous avez l'œcuménisme en puissance qui sont ces assemblées de chrétiens de diverses confessions qui n'arrivent pas encore à s'unir totalement, mais qui tendent à le vouloir pour faire une sorte de remontée aux sources et qui font un œcuménisme en puissance.
Et ce conseil continue encore aujourd'hui ?
Oui, le Conseil œcuménique des Églises a des assemblées. Il forme plus de 500 églises. C'est un grand, grand, vaste rassemblement avec un secrétaire général qui est désigné par ce Conseil œcuménique des Églises. Il y a eu différents types de secrétaires généraux du Conseil œcuménique des Églises. Le Conseil œcuménique des Églises est né en 1948, donc juste après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu d'abord Wilhelm Visser Uff, un réformé, puis Carson Black, un presbytérien, et puis après ça un méthodiste, un deuxième méthodiste, puis un membre, Konrad Reiser, qui était chef de l'Union des Églises évangéliques d'Allemagne, puis de nous un méthodiste, un luthérien, et puis finalement, actuellement, un calviniste, après un bref temps qui a été confié à un orthodoxe d'une manière transitoire, en intérim.
Oui, oui.
Donc ce sont des secrétaires plutôt protestants, très visiblement, je viens d'en dénoncer leur origine de chacun, et ce sont des assemblées donc à tendance protestante.
Oui. Oui. Et l'Église catholique est invitée à ce conseil ?
Alors l'Église catholique ne s'est jamais rassemblée avec le Conseil œcuménique des Églises, d'une part à cause de la réticence protestante vis-à-vis d'elle, qui, si un jour on votait à la proportionnelle, évidemment l'Église catholique l'emporterait sur toutes les décisions, puisqu'on est bien plus nombreux qu'ils ne le sont, et d'autre part une réticence aussi du côté catholique qui, depuis Pie XI, a mis en garde contre le relativisme qui risquait d'advenir, et nous ne participons que depuis le Concile Vatican II à une commission du Conseil œcuménique des Églises qui est foi et constitution, qui était une assemblée plus antérieure par rapport à une autre institution qui était plutôt centrée sur l'agir. Et ces deux institutions s'étaient d'une certaine manière unifiées, de telle sorte qu'il n'y ait plus que le Conseil œcuménique des Églises, mais au-dedans, il y a toujours ce bureau foi et constitution. Et depuis Vatican II, alors nous sommes invités à part égale, en nombre de théologiens, à participer aux rencontres de foi et constitution. Donc il y a très régulièrement des groupes de travail, on appelle ça des GMT, et ces GMT, groupes mixtes de travail entre l'Église catholique romaine et le Conseil œcuménique des Églises, produisent des textes très régulièrement depuis 1966. On a donc des dominicains qui ont pu participer, comme notre cardinal Jérôme Amer, qui était membre du Concile Vatican II, Monseigneur Pierre Dupré, un père blanc, qui ont participé à ce GMT. Ils étaient délégués par le secrétariat pour l'unité des chrétiens à Rome, et ils ont donc pu ainsi se rencontrer très régulièrement avec ce bureau foi et constitution du Conseil œcuménique des Églises.
Et donc cet œcuménisme, du point de vue des catholiques, est actif aussi. Il y a un vrai travail fait.
Il y a un vrai travail avec des documents très régulièrement publiés qui sont toujours intéressants parce que ça prépare d'une certaine manière la réflexion par exemple, baptême, eucharistie et ministère en 1982, a permis des réflexions pour les synodes, pour la réflexion des synodes dans l'Église catholique. On avait ces textes qui ont aidé, et les visites aussi de nos papes au Conseil œcuménique des Églises à Genève a souvent relancé aussi le travail de ces groupes mixtes de travail. Et donc, il y a actuellement, on est au 8e groupe mixte de travail hein, qui se réunit depuis 2016. Alors parfois, il y a des périodes plus stagnes, évidemment.
Dans cet effort œcuménique, on a, à une époque, on a trouvé on a établi un credo commun, telle sorte qu'on puisse. Qu'on puisse en exprimer par les mêmes mots une même foi. Et puis récemment, quand on a voulu changer la traduction du Notre Père, on a aussi été attentif à demander aux protestants ce qu'ils en pensaient pour pas qu'il y ait une nouvelle cassure, même dans le Notre Père. Et est-ce qu'ils ont accepté tout ça? Est-ce qu'ils sont d'accord avec tout ça?
Alors, c'est vrai que c'est délicat, tu ouvres tout un dossier pas facile à élucider, parce que parfois, on ne se dit pas les choses en face, et on croit qu'on fait plaisir à l'autre en acceptant quelque chose, alors que en fait, il n'y a pas nécessairement une adhésion générale. Mmh. Quand la première traduction du Notre Père, où on avait traduit « Ne nous soumets pas à la tentation », eh bien, il y avait eu un consensus catholique et protestant, mais les catholiques croyaient qu'ils faisaient plaisir aux protestants en utilisant une formule plus proche du grec, et les protestants ont cru qu'ils faisaient plaisir aux catholiques en acceptant leur nouvelle formule. Alors, du coup, on n'était pas dans la recherche nécessairement de la vérité. Il aurait fallu écouter davantage le père Carmignac et arriver tout de suite, ne nous laisse pas entrer en tentation. On aurait eu une solution plus proche de ce que a toujours été la foi des chrétiens dans cette expression qui a certainement été dite d'abord en araméen ou en hébreu par Jésus. Voilà.
Merci, frère Edouard. À bientôt.
À bientôt, au revoir.